Il convient, me semble-t-il, que je commence, avant de lire quelques versets, par les commentaires sur la liste bibliographique que je n'ai pas eu le temps de faire ce matin. Quelques mots quand même pourraient vous être utiles avec une ou deux additions. Donc dans la bibliographie, où les titres sont classés dans l'ordre alphabétique des auteurs. Je commence par le livre 11 des Confessions d'Augustin. Cela donc n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Ensuite, c'est James Barr, Biblical Words for Time. Je crois qu'il faut que j'explique un petit peu qui est ce James Barr. James Barr est notre critique le plus féroce, ou peut-être le plus féroce, en tout cas l'un des plus efficaces. Il est professeur maintenant à l'université d'Oxford. Il a un très grand renom international. Et son livre sur ou contre le fondamentalisme, c'est le terme qu'il emploie pour parler aussi des évangéliques que nous sommes, est une attaque en règle sur pratiquement 350 pages. C'est sans doute le livre le plus puissant qui, jusqu'à ces dernières années, ait été écrit contre nos positions. Mais nous n'avons pas été les seules cibles, nous les évangéliques en général, de ces critiques. Il s'est fait une spécialité de la descente en flamme de thèses qui rallient un grand nombre d'adeptes. Il s'est fait connaître d'abord par un livre intitulé « La sémantique du langage biblique » qui est traduit en français, qui attaquait les méthodes courantes des théologiens, alors non évangéliques cette fois, dans les années 40-50. En particulier, il attaquait la méthodologie de ce très gros dictionnaire que vous avez à la bibliothèque ici, le Wörterbuch du Nouveau Testament, de théologie du Nouveau Testament, qui est traduit en anglais, Theological Dictionary of the New Testament, que nous l'avons aussi en traduction anglaise. Un ouvrage qui a fait vraiment figure d'ouvrage de référence. Et il le critique en s'appuyant sur la linguistique, et je crois, d'une manière fondée. Et il a prolongé ce travail, un peu plus tard dans les années 60, par une critique des méthodes employées par certains pour établir une doctrine du temps et de l'éternité. Et en particulier, il s'est attaqué à Kuhlmann, que j'ai mentionné tout à l'heure, montrant que du point de vue linguistique, les arguments de Kuhlmann sont irrecevables. Et son étude, donc, s'intitule « Biblical Words for Time », les termes bibliques pour le temps. Je pense que c'est un ouvrage de qualité, mais qui est presque entièrement, pas tout à fait, mais presque entièrement négatif, montrant que ce que d'autres ont dit, et Kuhlmann et certains autres, n'est pas fondé. C'est un redoutable dueliste. Alors, dans ma disquette, après la date de 1962, le 1 était un exposant. Mais je pense que dans le passage de ma disquette à l'ordinateur de Marie-Claude Saout, le 1 est tombé, donc il ne s'agit pas d'un ouvrage édité en 19621, mais en 1962, quant à la première édition. Le 1 est celui pour la première édition. Barthes, j'ai mentionné aussi son nom, c'est dans le troisième volume, deuxième tome, deuxième fascicule dans l'édition française de sa dogmatique que vous avez le traitement le plus développé sur la question du temps. Et il y a des centaines de pages. L'ouvrage de Barthes, inachevé, au total, avoisine les 10 000 pages. Et ce n'est pas du tout petit format. Et il y a des pages en petits caractères assez nombreuses. Donc, c'est un ouvrage très très massif. L'un des problèmes de l'usage de ce texte, c'est qu'il ne suit pas un plan ordinaire et que Barthes, étant très prolixe, sans perdre son temps, hein, mais étant très prolixe, traite de nombreuses questions à d'autres endroits qu'on ne l'a fait traditionnellement. Alors, pendant longtemps, il fallait assez bien connaître l'ensemble pour savoir où on allait trouver un passage intéressant sur le sujet que l'on voulait traiter. Maintenant, il y a un volume d'index à la fin qui vous permet de vous y retrouver, mais sachez que donc pour repérer où Barthes a traité d'un sujet, il faut consulter cet index, parce que on ne le prévoit pas facilement dans l'ordre principal, disons, des fascicules successifs. Là, ça fait partie de la doctrine de la création. Le troisième volume est consacré à Dieu le Créateur, et c'est donc dans le cadre de cette doctrine que Barthes traite de l'homme dans son temps et de Jésus Seigneur du temps qui est en cause. Alors ensuite, il y a un petit article que j'avais fait pour la Gazette des GBU où je résume un peu mes propositions. Il y a un texte en anglais que j'ai fait plus récemment, légèrement plus récente, sur un sujet connexe, pas le même tout à fait, mais sur l'immuabilité divine. Perkoff, c'est le volume de référence de théologie systématique. Alain Besançon, qui est un intellectuel assez connu en France, qui a d'abord réfléchi à partir de la psychanalyse, et dans le texte ici en cause, il se montre encore assez proche de cet arrière-plan psychanalytique, puis par la suite s'est spécialisé davantage en soviétologie, s'est davantage fait connaître comme un analyste et critique en matière politique et des doctrines, des courants marxistes et de la réincarnation en URSS. Il est, je pense, catholique relativement conservateur dans ses propres positions. Nous l'avions invité une fois dans notre journée théologique à l'époque, c'est ainsi que nous l'appelions, mais il s'était pas préparé très soigneusement, donc il n'y a pas eu beaucoup d'échanges avec lui. Alors ensuite, un livre de trois théologiens catholiques qui est un livre assez fort que j'ai avec moi. Ce n'est pas une lecture quand même prioritaire pour vous. Ce qui est le plus fort dedans, c'est ce qu'a écrit Henri Bourgeois. Ses deux autres collègues, Pierre Gibert, bibliste, et Maurice Jourjon, patristicien, ont écrit de manière assez brève et légère. Et l'essentiel du livre est fait par Bourgeois, qui est davantage un dogmaticien, et avec aussi des compétences philosophiques. Il est assez proche de Ricoeur, il suit Ricoeur en théologien, et donc je n'étais pas une lecture de tout premier rang, me semble-t-il, pour vous. Jean Brun était un philosophe qui nous était proche, il est toujours facile à lire. Alors Oscar Kuhlmann, j'ai mentionné son ouvrage. Jean Guiton, qui était professeur de philo à la Sorbonne, catholique, a écrit un petit livre qui contient certaines intuitions intéressantes, mais qui ne prouve guère ce qu'il avance. C'est mon sentiment, en tout cas. Je l'ai ici, je ne pense pas que ce soit un ouvrage de tout premier rang pour nos préoccupations. Première édition en 42. Colin Dunton, il est intéressant surtout pour sa réfutation de la théologie du processus, représentée par Charles Hartshorne. Donc, il fait une comparaison avec Barthes. C'est un ouvrage très intéressant. Colin Dunton est proche des évangéliques, sans être évangélique strictement à notre sens. Il attire de plus en plus l'attention sur son nom en Grande-Bretagne, c'est, je pense, l'un des principaux dogmaticiens britanniques au temps présent. Nous nous sommes trouvés plusieurs fois ensemble. Et je pense que sur la question qui nous occupe, nos positions ne sont pas très très éloignées. Stephen Hawking, c'est le grand scientifique, mathématicien, qui a une chaire à Oxford. Brève histoire du temps. Vous connaissez sans doute ce texte. Ernst Jenny, c'est un spécialiste de l'Ancien Testament, dans un dictionnaire qui date un peu maintenant, mais qui quand même est encore utile, qui est en bibliothèque, c'est compétent. Le livre est fait sous la direction de Jean-Louis Lebas, lui-même professeur à la faculté de théologie protestante de Neuchâtel, maintenant à la retraite. Ce livre-là est un livre inégal, divers, mais il y a certaines choses intéressantes. C'est un assez gros livre.
Je crois que je l'ai. Il n'est pas en bibliothèque, je ne pense pas. C'est un livre qui m'appartient, dans une eschatologie. Ce qui n'égale, ce sont des études particulières, mais je peux m'y référer une fois ou l'autre. Pour Mills, là, je pense que ça doit être en bibliothèque. C'est sur notre sujet, un théologien évangélique, mais c'est très bref. Jürgen Moltmann, Moltmann a écrit divers ouvrages, et dans l'un de ses derniers, Jésus le Messie de Dieu, donc c'est un théologien réformé, non évangélique, allemand, il a des idées assez étranges, personnelles, un peu compliquées sur le temps. Je ne vais pas m'y arrêter, je ne compte pas m'y arrêter, mais je vous les signale. C'est un des plus connus. On dit de lui que c'est le plus coté à la bourse des valeurs écuméniques. Il est assez typiquement le théologien qui se fait écouter dans les cercles du Conseil écuménique des Églises. Il était professeur à Tubingue. Jean Mouroux, un livre qui n'est pas tout récent non plus, d'un théologien catholique encore, je pense assez orthodoxe, c'est un très beau livre. On ne peut pas le mépriser du tout. Ce mystère du temps, approche théologique. Je m'y référerai parfois. Alan Paget, Gordon Time, c'est un ami, un théologien anglais qui m'a envoyé une photocopie de ce texte. C'est un philosophe, à Oxford, je crois, qui a des vues, qui défend là des vues qui sont en fait assez proches de celles que je vais aussi vous suggérer. Ted Peters est un luthérien américain très sympathique. Bon, de nouveau, c'est pas un évangélique au sens strict, mais il est vigoureux et il a des idées, disons, originales. Paul Ricoeur, donc c'est philosophe protestant et peut-être le plus respecté aujourd'hui des philosophes français dans l'université. Qui a écrit dans un ouvrage collectif issu d'un congrès un article, un texte sur le temps biblique. C'est la revue Archivio di Filosofia qui a publié les textes de ce congrès. Donc l'article de Ricoeur est en français. Et puis c'est lui l'auteur de l'ouvrage que j'ai déjà mentionné, en trois volumes, Temps et récits, qui nous intéresse surtout dans le premier et dans le troisième. Dans le premier, ce qui est alors admirable, c'est par là qu'il pose le problème, c'est l'analyse du livre 11 des Confessions d'Augustin. C'est vraiment un modèle de commentaire de texte philosophique. Il accompagne le mouvement de la pensée d'Augustin, on fait ressortir les articulations, les difficultés, nous apprend à penser, en quelque sorte, à ce propos. C'est du très, très joli travail. Et puis ensuite, alors, il étudie Aristote, et il montre comment, entre Augustin et Aristote, il y a en quelque sorte les deux pôles de toute réflexion sur le temps. Et dans le troisième ouvrage, alors, il étudie beaucoup d'autres philosophes, en montrant comment il prolonge, au fond, les deux lignes augustiniennes et aristotéliciennes. Aristote avec l'accent sur le temps du cosmos, avec sa mesure, le calendrier déterminé par le mouvement des astres, etc. Et Augustin, le temps qui ne se comprend qu'à partir du sujet, dans l'espèce de distension, mais aussi de mouvement inverse de synthèse, qu'opère l'esprit humain ou l'âme humaine. Il montre comment les philosophes, jusqu'à lui, prolongent ces deux grandes lignes.
Mais c'est de la philo, hein. c'est pas
du tout facile.
Thomas d'Aquin, donc le très très grand docteur du Moyen-Âge, et qui demeure une grande référence dans le catholicisme romain, c'est dans la prima pars, la première partie de la somme théologique, dans la question 10, qu'il traite de l'éternité divine et par conséquent du temps. Et puis j'ai aussi indiqué Hans-Walter Wolff, Anthropologie de l'Ancien Testament, qui contient des données bibliques assez bien représentées, organisées pour l'Ancien Testament. Mais c'est à coup sûr l'Ancien Testament d'abord qu'il faut consulter. Alors j'ajouterai à cette liste que sais-je, qui m'a été prêté par M. Sylvain Romerowski, qui est utile, mais qui fait le point très bien, en particulier quand au rapport entre les théories philosophiques et les données de la science la plus récente, de Bernard Piètre, P-I-E-2-T-R-E, philosophie et science, les deux au singulier, du temps. C'est un ouvrage clair, qui me semble modéré dans ses conclusions. Bon, l'édition que j'ai ici, c'est la deuxième édition corrigée de 96. On ne sait pas s'il y a de nouvelles éditions encore modifiées depuis, mais c'est clair et intéressant, et entre autres à propos des conséquences qu'on peut essayer de tirer de la théorie de la relativité. Il se concentre essentiellement sur la relativité restreinte, mais la relativité générale est aussi en cause quant à la réflexion plus générale sur le temps. C'est un petit livre utile. Puis je signale que j'ai utilisé aussi un mémoire de ce qu'on appellerait aujourd'hui maîtrise en théologie, bien qu'à l'époque ce n'ait pas été le nom, de mon cousin en fait, Paul de Corvet, à la faculté de théologie protestante de Genève. Le temps et la foi chrétienne. Je rends à César ce qui est à César, donc à Paul de Corvet aussi cet honneur qu'il a fait un texte là de quelque importance qui m'a été utile. En fait, je ne l'ai pas relu pour ce cours, mais je l'avais bien potassé dans les temps anciens. Voilà quant à la bibliographie. Vous n'avez pas de questions à ce propos? Si, monsieur.
Si nous avions à approfondir quel livre, trois livres que vous nous conseilleriez, ce serait lesquels?
Oui. Alors, je pense que s'il s'agit de comprendre la position classique, Mourou mérite vraiment d'être mis au premier plan. C'est du joli travail. Si vous vous intéressez au rapport entre philo et science physique, physique récente en particulier, Piètre fait bien le point. Mériterait, me semble-t-il, d'être mentionné. Comme ouvrage qui a fait date, qui a besoin d'être critiqué, mais en même temps ouvre la brèche d'une manière qui, je crois, a été historiquement utile, je pense que Kuhlmann, Christ et le temps, qui n'est pas très long, c'est pas un livre très pesant. Kuhlmann peut être mentionné. En quelque sorte, et malgré les critiques qu'il mérite, je vais faire des propositions qui essaieront de dépasser le face-à-face qui peut rester stérile de Mourou et de Kuhlmann, de la position classique. Mourou représente très bien, et de Kuhlmann, qui la récuse. Voilà, quelques indications. Si ces indications vous suffisent pour le moment, alors je vous invite à quelques lectures, ou plutôt à une lecture, mais de plusieurs fragments du début de la Genèse. C'est un passage auquel on peut penser lorsqu'il s'agit du temps et de l'éternité, plusieurs des textes qu'on y trouve ont pertinence pour le débat, même si les leçons en tirées ne sont pas évidentes. Alors Genèse, je lis d'abord les versets 1 à 5. Au commencement ou au principe, le mot qui est utilisé peut avoir un sens temporel, simple, et dans ce cas le mot commencement correspond bien en français, je crois que la plupart des versions choisissent ce terme-là, mais il a aussi d'autres sens dans l'écriture, il peut désigner le principe d'une manière qui évoque une priorité logique plutôt que chronologique. Je crois que c'est dans ce sens qu'il est employé, je l'ai plaidé dans ce que j'ai écrit antérieurement, qu'il est employé dans la fameuse formule « la crainte du Seigneur et le principe de la sagesse ». Je pense qu'il faut plutôt traduire « principe ». Il peut aussi vouloir dire les prémices, les premiers fruits, symboles de toute la récolte qui sont présentés à l'Éternel. Et donc, il y a aussi ce sens qui a été envisagé. Donc, le mot n'est pas strictement réservé à la signification chronologique. Mais ici, en général, on le prend plutôt dans cette signification. Donc, au principe, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était tohu-bohu. Vide et vague. Chaotique, pourrait-on paraphraser. Hein. Le mot tohu-bohu en français, c'est la simple transcription de ce qu'on a dans l'hébreu. Tohu, bohu. Donc c'est une expression toute faite pour désigner ce qui est informe, ce qui n'est pas habité ni habitable. Et la ténèbre sur la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Souffle de Dieu, c'est vraiment l'expression qui revient des centaines de fois dans l'Ancien Testament, qui traduit généralement l'Esprit de Dieu, et il n'y a pas de raison de s'écarter de cette signification ici, à mon avis. Mais je signale que certains ont cru pouvoir introduire ici un autre sens du mot souffle, le sens de vent. Et on traduit au lieu de souffle de Dieu, Esprit de Dieu, vent violent. Disons que de Dieu, c'est l'équivalent d'un superlatif, un vent très venteux, donc un vent violent. Vous avez certaines versions qui ont choisi ce sens-là, à partir de l'idée que nous avons une vision de chaos, de terre dévastée, et ils ont mis donc, ils disent vent violent. Je crois que c'est de mauvaise méthode, dans la mesure où une formule comme celle-là est très fréquente dans l'écriture, désigne toujours l'esprit de Dieu, mais je vous signale. Et Dieu vit, excusez-moi, et Dieu dit, soit lumière, et fut lumière. Et Dieu vit la lumière que bonne, et Dieu sépara entre la lumière et la ténèbre. Et Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre il l'appela nuit, et fut soir, et fut matin, jour 1. Vous avez donc après la mention du commencement, vous avez cette numération des jours qui commence avec le jour 1, qui est sans doute significatif. Alors un peu plus loin, dans le même chapitre, on pourrait dire tout le chapitre, mais ça nous prendrait peut-être un peu trop de l'heure. Verset 14 à 19, l'œuvre du quatrième jour. Et Dieu dit, sois luminaire dans la voûte des cieux pour séparer entre le jour et la nuit et qu'ils servent de signe pour les temps sacrés et les jours et années. Pour les temps sacrés et pour les jours et années, parce qu'il y a une répétition là de la préposition qui ne se trouve pas entre jour et année, montrant que jour et année vont ensemble. C'est donc là les préoccupations de calendrier, avec d'une part les fêtes, les temps sacrés, et d'autre part le temps profane, jour et année. et qu'ils servent de luminaire dans la voûte des cieux pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour le gouvernement du jour et le petit luminaire pour le gouvernement de la nuit et les étoiles. Et Dieu les mit dans la voûte des cieux pour éclairer au-dessus de la terre et pour gouverner le jour et la nuit et pour séparer entre la lumière et la ténèbre. Et Dieu vit que bon, et fut soir et fut matin, jour quatrième. Et puis encore le début du chapitre 2. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu acheva au jour le septième son ouvrage qu'il avait fait, et il cessa le jour le septième de son ouvrage qu'il avait fait. Et Dieu bénit le jour le septième, et il le sanctifia, car en lui il a cessé de tout son ouvrage. C'est très littéralement, c'est pas du bon français, cesser de, hein, mais je vous rends exactement la tournure dans l'original. De tout l'ouvrage qu'il avait fait, qu'il avait créé pour faire. Ce que on peut sans doute traduire légitimement par qu'il avait fait par mode de création. Voilà donc les versets de ce fameux enfin, alors, c'est une question que nous pourrons peut-être reprendre, revenir à cette question, mais je donne un premier élément de réponse. Je ne pense pas qu'il s'agisse de deux temps différents, mais à l'intérieur de l'année, dans le déroulement du temps, il y a certains moments qui sont réservés à un usage cultuel, qui ont un caractère donc mis à part pour le service de Dieu, pour sa louange, et cela on les appellera temps sacré. Alors que pour les activités profanes, le travail, etc., on en parlera simplement des jours et des années. Je pense que c'est ainsi qu'on peut faire une distinction. Oui. Alors le sujet du rapport à l'évolution n'est pas totalement étranger à notre sujet, mais c'est quand même un sujet un peu différent. C'est vrai que l'idée que les formes vivantes dont nous en partie, qui couvrent la Terre actuellement, soient issues de processus évolutifs qui se sont étendus sur des milliards d'années, à partir de premières bactéries, implique pour la notion de temps que nous devons étudier deux éléments qui ne vont pas de soi, qui peuvent être débattus. D'une part, la profondeur, on pourrait presque dire l'immensité des temps qu'il faut prendre en considération, cela change quelque peu notre perception de l'histoire, ce que nous pensons du temps. Si nous reconnaissons qu'il s'agit de plusieurs milliards d'années, ou si nous disons c'est 10 000 ou 15 000 ans depuis que l'univers existe. Il y a certains chrétiens évangéliques qui maintiennent un âge de la Terre de 10 ou 15 000 ans. Et d'autre part, si l'on accepte des processus évolutifs, on a sans doute une notion assez continue du temps. Un temps qui est comme une seule coulée, dont le caractère est assez homogène, où les moments s'enchaînent avec... comme un lien de causalité qui les lie, au lieu d'un temps discontinu fait de moments qui ne seraient pas profondément reliés les uns aux autres. Donc, par rapport à notre sujet, je fais ces deux réflexions pour montrer qu'il y a pertinence de la question que monsieur a posée. Cela dit, les chrétiens évangéliques se sont disputés si fort à propos de la théorie de l'évolution que je crois qu'il ne serait pas très sage que nous nous engagions à fond dans dans ce débat. Ça nous prendrait trop de temps que nous avons à disposition pour travailler. Mais c'est un des paradoxes. Il faut du temps pour penser au temps. Il faut traiter du temps. J'ai dit un peu ma position sur ce sujet dans l'appendice de mon livre Révélation des origines. Donc vous pouvez vous y reporter si vous voulez. Je crois pour ma part qu'il n'y a pas de raison biblique formelle pour exclure une procédure évolutive pour la création de Dieu. Sans que je prétende que la Bible l'enseigne de manière directe non plus. Je pense que la Bible laisse cette question ouverte et qu'il faut examiner les théories de l'évolution selon leurs preuves, leurs indices favorables et aussi les indices défavorables, en nous disant, selon ce que cette analyse montrera, nous dirons Dieu a créé par ce moyen ou Dieu n'a pas créé par ce moyen. Mais que nous pouvons rester très, très détendus à ce propos. Et mon impression générale à moi, dans l'état de mes lectures, qui sont celles d'un amateur, c'est que nous pouvons admettre une certaine dose de procédure évolutive pour l'œuvre de la création, que probablement le mécanisme évolutif ne suffit pas pour rendre compte de l'ensemble de la diversité des formes vivantes, mais qu'il paraît assez probable que Dieu a utilisé à titre partiel cette manière de créer. Voilà ma conclusion qui est révisable, parce que je ne suis pas spécialiste des questions scientifiques en la matière. Voilà donc très, très brièvement sur ce sujet. Voilà. Nous voulons maintenant, dans cette deuxième de nos séances, passer en revue les données bibliques pertinentes. Nous avons commencé en lisant le début de la Genèse, mais il s'agit d'avoir un coup d'œil d'ensemble, en reconnaissant d'emblée la difficulté que nous rencontrons et qu'a très bien mise en évidence James Barr, ce fameux critique. Il a pu écrire, page 131 de son ouvrage, le manque très sérieux à l'intérieur de la Bible d'énoncé sur le temps ou l'éternité qui pourrait constituer une base suffisante pour une conception philosophico-théologique chrétienne du temps. Voilà ce qui a conduit tant de gens à suivre des méthodes finalement très critiquables. On voudrait construire une théorie chrétienne du temps qui réponde aux philosophes, donc qui se situe au plan philosophico-théologique. Seulement, il n'y a pas d'enseignement explicite portant directement sur ce point dans la Bible. Et alors, il faut trouver des indices, il faut trouver ce que peuvent impliquer les choses qui sont dans la Bible. Est-ce qu'elle nous suggère plutôt ceci, plutôt cela, et faire une synthèse qui a toujours un caractère quelque peu risqué. Je crois que Barr a raison, il n'y a pas d'enseignement direct explicite sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conception biblique du temps et de l'éternité, mais il faut la déterrer en quelque sorte. Il faut trouver, sous les manières de parler de la Bible lorsqu'elle parle d'autres sujets, ce qui est implicite quant au temps et à l'éternité. Alors, il y a diverses méthodes qu'on peut employer, je vais les passer en revue, mais je formule d'emblée notre présupposé, ça fait partie encore de mon introduction si vous voulez, notre présupposé en l'affaire, c'est l'accord doctrinal des Écritures. Si les différents auteurs de la Bible avaient des conceptions du temps divergentes, opposées entre elles, alors ce serait désespéré. Non seulement il n'y a pas d'enseignement explicite, mais nous aurions des indices qui forcément pourraient aller dans tous les sens. Si nous nous embarquons dans l'étude, c'est avec cette confiance que la Bible ayant été inspirée par un seul et même esprit, qui ne se contredit pas, l'Esprit de Dieu, s'il y a une conception du temps implicite dans ces textes, elle doit se retrouver à peu près partout. Il ne doit pas y avoir d'incompatibilité quant à la notion du temps et de l'éternité entre le Pentateuch, Ésaïe, Paul, Jean, etc. On peut dire que si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Saint-Esprit, qui a inspiré l'Écriture, est aussi le même. Il est le même à l'époque de Moïse, d'Ésaïe, de Paul, et à la nôtre, et c'est lui qui nous aide à comprendre l'Écriture, sans quoi aussi notre quête risquerait bien d'être vaine. Cela ne veut pas dire que les outils conceptuels, les mots clés, soient les mêmes partout. Il faut bien distinguer entre la doctrine, ce qui est affirmé comme vérité, même implicitement, et puis les outils intellectuels. On peut dire la même chose avec des mots et jusqu'à un certain point des concepts qui sont différents. On a remarqué que sur d'autres sujets, mais enfin ça touche quand même aussi un peu au nôtre, entre Jean et les trois premiers évangiles, vous avez des équivalences, mais aussi des différences très marquées. Là où les trois premiers évangiles nous parlent du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, royaume des cieux chez Matthieu, le royaume de Dieu chez Marc et Luc, l'expression est presque absente, il y a une occurrence en Jean 3, mais dans l'évangile de Jean. Et qu'est-ce que nous trouvons à la place? Nous trouvons vie éternelle. Il est extrêmement probable, c'est ce que beaucoup d'exégètes évangéliques admettent, que Jésus a littéralement dit « royaume de Dieu » au royaume des cieux dans sa prédication, les deux sans doute. C'est un concept facile à comprendre pour ses compatriotes en Palestine. Mais que Jean a traduit, écrivant plusieurs dizaines d'années après, et vivant à Éphèse, et s'adressant donc en grande partie à un public de langue grecque, a traduit pour qu'ils comprennent bien par la formule « vie éternelle ». C'est une traduction inspirée. Donc il peut y avoir des appareillages intellectuels et des vocabulaires qui diffèrent. On peut aussi comparer l'apôtre Paul et l'épître aux Hébreux, par exemple. Là, c'est plus une perspective. C'est pas contradictoire, mais Paul a tendance à présenter la foi, la grâce d'une part, et la loi comme antithétiques, comme en opposition. Non par la loi, mais non sous la loi, mais sous la grâce. Alors que l'Épître aux Hébreux a plutôt tendance à présenter le régime de la grâce comme la perfection. Non pas une antithèse, mais un dépassement, une progression et un summum. Ce sont des façons de faire qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qui sont en même temps assez caractéristiques. Donc, à propos du temps et de l'éternité, nous pouvons aussi trouver des différences de ce genre. Ça n'empêche pas un accord doctrinal fondamental. Alors, quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre? Il y a d'abord, dans l'ordre de ce que les gens ont utilisé, l'étude des mots, précisément. Et Kuhlmann a critiqué la position classique sur cette base, principalement, en disant tout spécialement, la position classique oppose le temps et l'éternité. C'est en quelque sorte l'évidence sur laquelle cette position classique se construit. Mais, dans la Bible, ce sont les mêmes mots qui désignent le temps et l'éternité. Les mots pour éternité, aussi bien en hébreu qu'en grec, désignent aussi de longues périodes de temps. C'est « olam » en hébreu, dans la transcription selon les règles que nous appliquons ici. « Olam », la racine, l'étymologie, signifie, semble-t-il, quelque chose qui est caché. Et alors, le mot désigne ce qui se perd dans la nuit des temps, en arrière ou en avant. Et puis, à partir de là, une très longue période historique, un siècle, un siècle en sens de 99 plus 1, et aussi l'éternité, c'est
c'est le kolam que Dieu habite. Et puis c'est en grec un mot qui a à peu près la même valeur, aion, qui est le terme employé pour l'éternité, avec l'adjectif aionios pour éternel. La vie éternelle, c'est la vie aionios. Or, aion, c'est désigne de siècle. Et c'est pourquoi nous avons encore en français ces vieilles expressions au siècle des siècles. Il s'agit d'un âge. Alors là, la racine, c'est semble-t-il aei, qui signifie toujours, mais ça peut désigner toute la durée d'une vie, par exemple, chez les Grecs, ou une grande période de l'histoire, ou l'ensemble du temps, ou l'éternité. Dans la formule que j'ai citée ce matin de Platon, le temps est dit l'image mobile de l'éternité. Le mot temps, c'est chronos, mais le mot éternité, c'est aion. Bien que le mot aion puisse être aussi employé pour des périodes de temps. Alors, l'argument de Kuhlmann, c'est, puisque c'est le même vocabulaire, il n'est pas concevable qu'ils aient fait une grande opposition entre temps et éternité. C'est ce genre d'argument que James Barr a critiqué, en disant, du point de vue linguistique, ça ne tient pas du tout. En fait, les mêmes mots peuvent très bien avoir des sens désignant des réalités tout à fait opposées. Dans tous les langages, c'est possible. Dans le champ des significations, le champ sémantique des termes, vous avez des usages qui sont peut-être tout à fait disjoints. L'étymologie ne doit pas compter. En fait, le plus souvent, on utilise les mots après avoir oublié le sens des racines bien longtemps avant. Donc, c'est une très mauvaise méthode que de recourir à l'étymologie, comme l'ont fait pas mal d'auteurs. Il y a aussi des mots qui sont partiellement synonymes. Leur champ sémantique, leur champ de signification ne sont pas identiques, ne sont pas de purs synonymes, mais en même temps, il y a une zone commune. Et les opposer, ce n'est pas sérieusement fondé. C'est le cas en particulier de deux mots grecs qui sont opposés par Kuhlmann et plus encore par d'autres, kairos et chronos. Le terme que j'ai déjà prononcé, nous avons fait chronologie, etc. Certains ont dit kairos, c'est le moment, l'instant critique, alors que le chronos, c'est le temps linéaire, quantifié. Ces deux usages existent, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a toute une zone où kairos et chronos sont employés de façon à peu près synonymique, à peu près interchangeable, où parfois les deux termes sont employés ensemble dans la figure de style qu'on appelle hen digadis, c'est-à-dire on dit une seule chose avec deux mots. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Ce sont les chronoi et kairoi. C'est ces deux mots-là que le père a fixé sa propre autorité. Il est très probable, si on use de tact exégétique, que les deux mots, là, ont des sens qui se recouvrent presque entièrement pour désigner l'ensemble des dispositions qui concernent le temps. Donc, James Barr a critiqué des méthodes qui, linguistiquement, sont de mauvais aloi, privilégiant l'étymologie, ignorant les phénomènes de synonymie partielle, la multiplicité des usages qu'on ne peut pas additionner lorsque l'on a un texte devant soi, etc. Alors que dire encore, plusieurs dizaines d'années après James Barr? Je pense qu'il faut dire que James Barr a raison pour le principal, mais quand même, qu'on ne peut pas se passer d'une inspection des mots. C'est commun. Au fond, lorsqu'on fait la liste des sens des mots dans un dictionnaire, on balise le champ sémantique, le champ des significations. Qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle
des milliers d'occasions, de phrases qui ont été prononcées. C'est au fond comme un concentré de mémoire à propos des choses qui ont été dites. Et du coup, il est commode, lorsqu'on essaye s'introduire, d'avoir le sens de ce qui s'est dit, de commencer par les mots. Ils peuvent servir au moins de porte-manteau à quoi accrocher les opinions qui ont été communes. Elles se trouvent en quelque sorte comme cristallisées dans les sens les plus habituels de ces termes. Donc c'est quand même une chose qui est toujours légitime et peut-être fructueuse que d'examiner les mots du vocabulaire biblique. Alors nous avons commencé de le faire en fait, parce que j'expose, je vous ai dit quelque chose, je vous cite quelques autres termes caractéristiques pour l'Ancien Testament en hébreu. Vous avez le mot et de fixer un rendez-vous, déterminer un lieu ou un moment où l'on va se rencontrer. Les moedim sont donc des temps de rencontre, de rendez-vous entre les membres du peuple de Dieu et entre Dieu et son peuple même. La tente de la rencontre, ou nom du tabernacle, utilise aussi moed. C'est la tente du moed, ohel moed. Ce que l'on traduisait dans les versions françaises anciennes, dans la vieille seconde, la tente d'assignation. Je crois que la plupart des lecteurs n'y comprenaient pas grand-chose, mais c'est le temps et le lieu assignés pour la rencontre. Donc c'est aussi un mot important. Il y a le bonjour. En fait, le bonjour, yom, yamim, sert beaucoup pour évoquer le temps qui passe. Avec diverses expressions, avec les jours qui viennent, les jours venant, c'est un participe. Pour l'avenir, les jours viennent. Ou également l'expression à longueur de jour, selon un rongement, semble-t-il, un rangement en long des jours. À la fin du psaume 23, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel à longueur de jour, littéralement. Le horer yamim. C'est aussi une expression intéressante. Vous avez bien sûr des mots spécialisés pour des unités de temps. Vous avez tout spécialement l'année, les jours et les années, dit Genèse 1, nous l'avons lu. Et là, le mot année, shana, vient d'une racine. Alors bon, j'ai bien dit qu'il fallait pas trop privilégier l'étymologie, mais qui évoque la répétition. Vous savez peut-être que la deuxième partie, non, c'est plutôt la première partie du Talmud, s'appelle la Mishnah. C'est la même racine, shana. C'est ce que les maîtres répètent. La répétition de la loi dans le commentaire des maîtres. Et donc l'idée de shana, et on comprend très bien, c'est l'idée de cette unité de temps où ça se répète. L'hiver, le printemps, ça se répète, ça se répète. Voilà ce qui constitue l'idée de l'année. On pourrait aussi parler du mois, où le mot principal évoque la nouveauté, probablement avec la nouvelle lune, en liaison avec la nouvelle lune, bien que le mois lunaire ne coïncide pas exactement avec la durée. Vous avez eu peut-être plusieurs calendriers aussi. Il y a des thèses rivales à propos du calendrier que les Hébreux ont utilisé anciennement. Donc vous avez des mots de ce genre. Et alors, vous avez le mot « olam », pour désigner donc les temps très anciens. Là, on emploiera aussi le mot kedem, qui était dans le texte que j'ai lu ce matin. Les énigmes qui viennent du temps le plus ancien de l'origine, kedem.
ce qui est avant, qui peut signifier aussi l'Orient, parce que c'est l'Orient qui est devant, c'est là qu'on se met face au soleil, le soleil se lève. Et je pense pour ma part que dans Genèse 2, il y a un jeu de mots. Dieu planta un jardin, Mi-Kedem. C'est en Orient, du côté de l'Orient, mais aussi de l'origine. C'est le jardin originel. Je pense que le texte veut jouer sur les deux sens de ce mot, comme il joue sur les sens de beaucoup d'autres mots. Genèse 2, 3. Donc vous avez Kedem, Olam, Kedem. Puis vous avez quelques autres mots qui sont très proches aussi de Olam. Olam est le plus fréquent. Hein. Et à toujours, c'est le Olam. Alors ça peut ne pas désigner l'éternité la plus forte, hein. Ça peut vouloir dire jusqu'à indication contraire. Hein. Tu observeras cela, le Olam. C'est une formule dans les traités des rois suzerains. Ils fixent les clauses et le vassal, lui, il est obligé de respecter ses clauses tant que ça dure, mais le suzerain, lui, est libre de les changer quand il veut. Donc le Olam, a toujours, pourrait être paraphrasé, jusqu'à comprendre, jusqu'à ce que vienne le comprendre, jusqu'à modification par l'autorité compétente. Mais ça, donc, c'est l'expression clé, mais il y en a au moins deux autres. Il y a le mot Netzar,
comment ça s'écrit, Kedem?
Kedem?
Par transcription.
Ah, par transcription.
Je veux dire, parce que je ne peux pas l'écrire, je n'ai pas de caractère.
C'est comme ça en hébreu, non? Et c'est comme ça pour transcrire. Donc, Netzar, qui est rattaché à une racine évoquant la victoire, c'est l'idée, me semble-t-il, de la culmination, du triomphe, de l'extrême. Puis vous avez l'idée de perpétuité, qui est davantage liée à la racine ad. Le ad à perpétuité, tant que ça dure aussi. Là, ce sont les termes clés dans l'Ancien Testament. Et pour une recherche comme la nôtre, il faut bien dire que les recherches d'Ancien Testament sont fondamentales pour le modelage des notions divines clés. C'est dans l'Ancien Testament que le processus s'opère. Dans le Nouveau Testament, ce sont des Juifs qui ont été formés par cela. Ils mettent en œuvre ces notions, même s'ils parlent une autre langue, ils ont été façonnés par l'éducation de l'Ancien Testament. Alors dans le Nouveau Testament, donc, il y a Aion, qui est très important, et il y a ces deux termes que j'ai déjà caractérisés, avec toute une zone de quasi-synonymie, mais aussi une nuance. Kairos, c'est davantage le temps, moment qualitatif pour faire ceci ou cela. Pour le temps de la moisson ou de la récolte pour un arbre, ce sera Kairos qu'on emploiera. Et puis Chronos, qui évoque davantage le temps comme délai fixé, avec sa mesure, en nombre d'années, par exemple. Là, ce sera plutôt Chronos qu'on emploiera. Je signale qu'il y a eu, en grec, fusion, c'est arrivé dès l'Antiquité. C'est là-dessus qu'Alain Besançon fait ses commentaires dans l'article qu'il vous a signalé en bibliographie. Entre Chronos et Chronos, ça correspond à deux lettres différentes en grec, hein, Kappa et Ki. Chronos, c'est le père de Zeus, qui mange ses enfants. Et si Zeus échappe, c'est parce que sa mère réussit à faire avaler une grosse pierre enveloppée au lieu du bébé par Chronos.
et puis chronos, le temps, les deux ont été confondus avec l'idée que le temps dévore ses enfants. Le temps est ce qui mange tout. Donc ça, c'est un thème, je dirais, très classique. Besançon l'étudie en rapport avec les angoisses que la psychanalyse étudie, l'angoisse de castration et aussi l'angoisse devant la mère dévoratrice, la mère archaïque. Mais on ne joue pas ça. Je vous indique de cette façon ce qu'on trouve dans son article qui est intéressant. Alors autrement, bien sûr, il y aura aussi le mot jour dans le Nouveau Testament et puis le mot heure est peut-être mis en valeur comme là il n'y a pas vraiment l'équivalent dans l'Ancien Testament. La question des veilles, de la nuit, mais le mot heure qui implique quelque chose de plus pointu, de plus dans le Nouveau Testament est très très intéressant à noter, en particulier dans le schéma des évangiles. La parole de Jésus, c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde. Et n'y a-t-il pas 12 heures au jour? En quelque sorte, tout son ministère terrestre à partir du baptême est comme une journée pendant laquelle il peut travailler, mais elle va s'achever sur une heure de ténèbres. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Et cette heure, c'est pour elle qu'il est venu dans le monde. Tout s'y concentre. C'est là que le salut du monde se joue, dans ce moment précis, particulier. Et lié à cela, alors il y a l'accent sur le une fois pour toutes, hapax ou ephapax, dans le Nouveau Testament, le aux Hébreux, utilise souvent cette expression temporelle. On peut la signaler une fois pour toutes. On peut aussi signaler une autre expression extrêmement intéressante, c'est celle de plénitude des temps. Pléroma ton kairon. Pluriel de kairos. Le pléroma, bon, ça vient de pléro remplir. Hein. La plénitude des temps, c'est généralement dans nos traductions récentes. Dans nos traductions anciennes, on avait ces traductions littérales, dans nos traductions récentes, rendues par la formule « quand les temps furent accomplis ». C'est l'accomplissement des délais, mais sans doute ça a une valeur plus large, une formule qui fait davantage réfléchir que simplement « quand les temps furent accomplis ». Dans Galates 4, très intéressant, Paul compare à la situation d'un père qui est décédé, mais qui, dans son testament, a fixé le temps pendant lequel l'enfant devra être sous des tuteurs. Ce n'est pas la loi qui le fixe comme pour nous, c'est le père qui décide, qui l'a mis, en quelque sorte, dans son testament. Et pendant tout le temps de sa minorité, ou encore mineur, l'enfant possède tout. C'est lui, l'héritier, il est comme un esclave dans la maison parce qu'il est soumis à des tuteurs. Jusqu'au moment où le délai fixé par le père est rempli. C'est le pléroma des temps. À ce moment-là, il est libéré de ses tuteurs, il entre en pleine possession de l'héritage, et l'apôtre Paul donc présente l'instauration du régime de la foi par la première venue de Jésus-Christ comme cet accomplissement des délais fixés par le père. Sous la loi de Moïse, les croyants sont comme sous un tuteur. Ils ont la promesse, mais ils n'en profitent pas encore, en tout cas pas à fond. Et lorsque le Christ vient, c'est le pléroma des temps. Le passage se continue d'ailleurs par une mention très intéressante, par une polémique contre la reprise des obligations de calendrier cyclique, observer les fêtes. Et Paul dit, si vous revenez à ça, en revenant aux stipulations de la loi de Moïse, ce serait pour vous, anciens païens, revenir à l'esclavage des éléments du monde qui étaient le vôtre lorsque vous étiez encore païen. En fait, c'est une sorte d'esclavage des éléments du monde. On est régi par les astres, on est soumis à des lois qui viennent de la nature, en fait. lorsque l'on observe ainsi un calendrier cyclique, ou disons qu'on se considère obligé par le cycle du calendrier, et maintenant que vous n'êtes plus sous la loi, c'est hors de question. Ne vous remettez pas sous un joug d'esclavage, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Donc vous avez des perspectives temporelles intéressantes, une vision du temps qui se dessine dans ce début du chapitre 4 de l'Épître aux Galates, mais déjà au chapitre 3 et encore dans la suite du chapitre 4, ça forme un tout très significatif. Signaler qu'il y a parfois un passage que l'on invoque dans le Nouveau Testament, qui sans doute ne doit pas porter ce poids, c'est dans l'Apocalypse, la mention « il n'y aura plus de temps ». Ça veut sans doute dire, la plupart des exégètes d'aujourd'hui le reconnaissent, « il n'y aura plus de délai, la chose va s'accomplir aussitôt », dans la vision de Jean. Donc il ne faudrait pas en conclure que le temps disparaît comme tel. Alors pour l'éternité, donc, il y a Aion et Aionios, il y a un autre terme, mais rare, qui est employé par exemple dans Romains, sa puissance éternelle, qui est Aidios. Il n'y a pas apparemment de sens différent. Et puis il y a aussi l'expression à perpétuité pour le sacerdoce de Melchisédek, établi comme prêtre, grand prêtre, à perpétuité. Eistodienekes. Mais ça n'a pas l'air d'avoir un sens vraiment différent. Cette idée, ça correspond à peu près à le had dans l'hébreu. Voilà donc les indications pour le vocabulaire. Nous achevons déjà à moins quart. Hein? Oui, donc il faut que j'avance très très vite. Deuxième voie que l'on peut suivre. Celle des genres littéraires ou des actes de discours, comme il dit, que Ricoeur, dans l'article Le temps biblique, privilégie. Il dit, dans la manière de prendre la parole, de se disposer selon les divers genres que l'on a dans la Bible, il y a des perceptions du temps différentes qui apparaissent. Mais ce n'est pas sans intérêt. Alors il dit, bon, d'abord, bien sûr, il y a le genre narratif, les récits. Mais ce qui est typique de la Bible, très intéressant, c'est que ces récits sont entremêlés avec les lois, le don des lois, et que vous ne pouvez pas démêler le premier genre du deuxième. C'est un genre mixte, en quelque sorte, narration-loi. Et ça a deux conséquences pour la notion du temps historique. D'une part, l'éthique est indissolublement mêlée au compte rendu sur ce qui se déroule dans le temps. L'histoire biblique devient une histoire marquée par l'éthique. Il y a un jugement selon l'obéissance ou la désobéissance, et en fait, il dit, c'est ce qui fait de l'histoire de l'Ancien Testament presque entièrement une histoire de la désobéissance d'Israël. Qu'est-ce qu'on trouve dans le temps ? Israël toujours désobéissant. Ce qu'Étienne reprendra dans son discours, d'ailleurs. Il le dira très clairement en acte 7. Et puis la deuxième conséquence de cette union du genre de la narration et du genre de la loi, c'est que les événements du commencement prennent une valeur de fondement, Ricoeur dit volontiers immémorial, en tout cas dont la pertinence demeure. C'est pas un passé révolu qui tombe en poussière en quelque sorte. Ce sont des événements qui continuent d'avoir toute leur importance aujourd'hui. Ensuite, il évoque le genre prophétique. La loi, dans les deux premiers genres, promet un avenir de prospérité à celui qui obéit, comme un avenir de jugement à celui qui désobéit. La prophétie représente l'irruption, la rupture, l'irruption de l'imprévisible liberté de Dieu. Les Israélites disent, le jour de l'Éternel, il va nous apporter la délivrance. Bien, les prophètes disent,
ce jour de l'Éternel sera un jour de ténèbres et non de lumière, de désastre. Parce que vous êtes pécheurs, mais c'est contrairement à vos attentes et vos prévisions sur cet avenir qui, en quelque sorte, était dans votre poche, pensiez-vous. Donc, irruption, discontinuité dans l'histoire. Et alors, selon Ricoeur, je pense que ça, ce serait tout à fait critiquable, les prophètes les plus anciens sont uniquement des prophètes de malheur, qui font sauter les prévisions optimistes des légalistes. Mais il reconnaît qu'ensuite, il y a renversement du renversement avec des prophéties de salut, des prophéties de prospérité. Et ce qui est caractéristique de l'ensemble de ce genre prophétique, c'est l'avènement de la catégorie du nouveau. Les prophètes mettent en valeur la nouveauté qui va surgir. Une nouveauté qui prend souvent la forme d'une répétition de l'ancien, mais sur un autre plan, avec renouvellement, un nouvel exode, un nouveau temple, etc. Mais c'est pas tout, il y a encore deux autres genres qu'il étudie, le genre sapiential, c'est-à-dire des écrits de sagesse. Là, c'est le temps quotidien, le temps de tous les jours, et qui permet de dégager des archétypes qui sont valables en tout temps, des modèles pour la conduite. Et il y a une version bis du temps sapiential, celle qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, où dit-il, c'est ce temps, comme dans les proverbes, le temps de tous les jours, mais par celui qui a vu la mort en face et qui a renoncé au savoir. Alors de nouveau, c'est une appellation d'Ecclésiaste qu'on peut discuter, mais c'est intéressant. Le rôle de la mort dans toute méditation sur le temps. Et puis, dernier genre, le genre hymnique, le genre de la louange dans le culte, qui récapitule toutes les autres modalités du temps, en la présence même de Dieu. Je pense qu'on peut retirer quelque chose de cette analyse de Ricoeur, tout en disant que notre orientation évangélique signifiera que nous privilégierons le contenu d'enseignement des textes avant de considérer l'aspect formel du genre comme lui le fait. Alors, il y a des énoncés qui touchent la question. Même s'il n'y a pas d'enseignement explicite sur le sujet, il est sûr que nous avons des éléments qui peuvent nous instruire sur la question du temps, qui suggèrent certaines choses. Alors, Genèse 1, par exemple, hein, nous avons fait une lecture partielle. On peut essayer de voir ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire que Dieu a créé le temps, qu'il l'a institué? Est-ce que ça veut dire qu'il est lui-même archétype du temps, puisque c'est lui-même qui se repose le septième jour? Voilà des éléments pour la réflexion, au moins. Il y a la méditation de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, sur laquelle nous reviendrons, nous la lirons, je vais beaucoup appuyer là-dessus, dans l'avant-dernière étude, en fait. Il y a des éléments de ce genre qui comptent. Il y a des remarques sur le temps et sur l'éternité. Il y a aussi tout ce qui concerne la prédiction. Dans les chapitres 40 et suivants d'Ésaïe, il est souligné que le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, est le seul qui est capable de prédire les événements. Il met au défi les idoles de le faire. C'est aussi quelque chose qui importe pour la conception que l'on a du temps et de l'éternité. Il y a des textes comme le psaume 90 qui dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, repris dans 2 Pierre 3 à propos de la fin du monde qui n'arrive toujours pas. Et Pierre dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Nous aurons à y revenir. Et le psaume 102, la fin du psaume 102, qui nous présente une méditation comme on en a dans plusieurs autres passages aussi. Le psaume 102, méditation de la brièveté de la vie humaine, l'homme, comme la fleur des champs, pousse le matin, le vent souffle, et ça y est, il fane. Et la permanence de Dieu, le fait que les années de Dieu ne finissent pas, ne s'épuisent pas, c'est l'expression qui est employée à la fin du psaume 102, qui est citée par Hébreux 1, à propos de l'éternité du Fils. Alors c'est de nouveau un passage clé sur lequel on peut revenir, et il y aurait encore d'autres textes, mais mon temps arrivant à son terme pour cette deuxième session, je n'insiste pas, et j'introduis simplement la dernière catégorie de données bibliques dont on puisse tirer des indications pour la doctrine du temps et de l'éternité. Il s'agit des grands axes du message, des caractéristiques majeures dont on peut discerner des affinités avec telle ou telle doctrine du temps. Alors on ne peut pas le faire par une logique très dure, très stricte. On ne peut pas faire une preuve formelle que la notion biblique de l'évangile, une bonne nouvelle pour notre salut par exemple, entraîne telle notion de temps. Mais je crois qu'on peut montrer qu'il y a une affinité, que une sorte de logique d'harmonie entre cet accent biblique sur l'événement une fois pour toutes qui est notre salut, et puis une vision du temps qui valorise le temps au lieu de le dévaloriser, qui exclut l'aspect cyclique par exemple comme un aspect ultime. Donc il y a possibilité pour nous de travailler sur les éléments souvent implicites d'affinité, d'apparentement entre des doctrines bien établies, des choses qui sont bibliquement certaines, et puis les choses que l'on dit à propos du temps et de l'éternité. Et c'est avec ces instruments que nous allons travailler dans les sessions qui viennent. Voilà donc le survol de ces données bibliques. Nous atteignons juste donc l'heure de la pause, hein. Je ne me trompe pas, c'est bien 15h45. C'est ça. Voilà. Oui.
C'est moi. Je vais vous dire, par rapport au quatrième point, l'avenir prédictif de l'Apocalypse.
Oui. Effectivement, je n'ai pas repris ça dans mon commentaire, manquant de temps. Je pense qu'on peut dire que dans les écrits qu'on classe généralement dans le genre apocalyptique, chez Daniel et dans l'Apocalypse de Jean, ce sont les deux principaux livres bibliques, il y a la présentation de l'avenir comme de quelque chose qui est écrit dans le livre de vérité, le livre scellé dans l'Apocalypse, dont seul l'agneau immolé peut ouvrir les sceaux, parce que c'est lui qui va, disons, diriger l'exécution. Donc l'idée que l'avenir est fixé dans un plan de Dieu qui peut se comparer à un livre. Chez les prophètes, l'idée n'est pas loin, mais elle n'est pas encore très très expresse. Il y a bien l'idée en Ésaïe 25, 1, d'un plan que Dieu a formé longtemps à l'avance. Mais que tout l'avenir soit déterminé de manière très précise, les prophètes ne le mettent pas tellement en valeur, c'est plutôt pour tel et tel événement qu'ils disent que Dieu le prédit, Dieu va le réaliser. Mais dans les apocalypses alors, qui mettent l'accent sur le fait que tout est déterminé du ciel, vous avez une idée d'histoire qui est comme préécrite dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de théologiens aujourd'hui à qui ça ne plaît pas, hein, et qui dénigre le genre apocalyptique pour cette raison même. Je crois que c'est un élément dans l'ensemble biblique qui peut nous faire réfléchir. Voilà, d'accord. Donc nous reprenons en principe à 16h, hein, je pense que c'est une interruption. Non, 16h15, ça va. 16h15. Ah oui, alors là, et nous avons une heure seulement. Hein. C'est bien avec moi là, à 16h. 16h15, oui, 16h15. Ouais. Voilà, oui, si vous avez envie, comme monsieur, de voir les livres que j'ai apportés.
Ah, mais il y a aussi là, après.
Après, oui.
Ah, oui, c'est pas.
Après. 16h15, 17h30.
C'est pas vraiment, en fait, c'est une thèse.
Oui, disons que c'est ce qu'on appelait thèse autrefois plutôt, et puis on dit mémoire aujourd'hui parce que
ah
c'est.
Oui. Mmh. Ah oui. Alors, ouais. Parce que t'as vu, c'était Bachelier.
Ah oui,
c'est marrant, il appelait ça Bachelier en théologie.
Oui.
Et c'est en Suisse aussi, hein.
Oui, c'était aussi la façon de.